c'est notre dernier séminaire, donc cette année, le séminaire sera poursuivi l'année prochaine. Donc nous continuons aujourd'hui la discussion sur le royaume de Cao, donc dans le notamment d'après le texte du Tongtian, parce qu'il s'est avéré que les notices sur ce royaume contiennent des informations donc extrêmement intéressantes, mais en même temps très problématiques, notamment sur le culte confédéral de la divinité Teisi, que nous identifions comme Tarsich. Voilà, et donc il faut donc nous avons considéré que plutôt que de passer tout de suite à d'autres royaumes qui seront abordés l'année prochaine, il valait mieux continuer à analyser en profondeur les notices concernant Cao.
Okay, so today we continue our discussion on text 2, state of Cao in the Tongtian. And let's give a working translation here based on what we discussed last week in order to facilitate and finish our discussion today. So, le royaume de Cao a sa capitale à quelques lis au sud de la rivière Nami, Zarafshan. Il faisait partie autrefois du territoire du Kang Ju. Comme ce royaume n'avait pas de chef, le roi du royaume de Kang chargea son fils Wu Jian de le gouverner. La capitale a trois lits de côté. Les soldats d'élite y sont au nombre de plus de 1000. Dans ce royaume, il y a le temple, peut-être, de la déesse de Si Tarsich. Des divers royaumes qu'on rencontre en partant de la mer d'Occident et en allant vers l'Est, l'honorent tous et lui rendent un culte. Concernant cette déesse, il y a un homme d'or, un polo d'or et large de 15 pieds. La hauteur de la statue est proportionnée à ses dimensions, peut-être. Et chaque mois, peut-être, on y sacrifie 5 chameaux, 10 chevaux et 100 moutons. Il y a constamment 1000 hommes qui en mangent sont venus à bout.
Perhaps the map?
Oui.
Ah, donc, le royaume donc, de Cao, sa capitale, donc, au sud de la rivière Nami, on a vu la dernière fois que Nami, c'est le nom sogdien du Zarafshan, hein, la grande rivière de la Sogdiane, ça pose un petit problème, c'est que la capitale, donc Ishtikhan, est bien localisée, puisque le nom s'est conservé, et elle est au sud, en fait, de ce qui n'est pas considéré comme aujourd'hui comme la branche principale. Hein. La branche principale, c'est le Karadaria. Et en fait, c'est au sud de l'Akdaria. Donc, il semblerait qu'à cette époque, soit la branche nord est considérée comme la branche principale, soit peut-être les deux sont considérés comme méritant le nom de la rivière. Voilà. Nous avons donc vu la dernière fois que les informations sur la localisation de ce sanctuaire et de la ville de Yehudi, à laquelle il est attaché, pose un problème géographique, puisque dans le texte, dans toutes les versions dans le texte, en fait, la seule indication de direction se trouve dans la version du Sintangshu, qui pourrait être corrompu. Et on indique le nord-est, voilà. Mais il se trouve que le seul endroit au Moyen-Âge qui avait gardé le nom de Tarsich et qui semblerait donc avoir été la localisation du temple, c'est ce que pensait notamment Henning, elle se trouve au sud, dans un district qui s'appelle Labrar, qui est, d'après les distances données depuis Samarcande, ça pourrait correspondre à une ville qui aujourd'hui s'appelle Juma. Et l'idée de Henning, c'est que en fait, ce district aurait pu faire partie du royaume de Cao et pas du royaume de Samarcande. Solution qui me paraît effectivement, qui nous paraît probablement la meilleure et qui serait peut-être facilitée par le fait que cette branche du fleuve n'était encore une fois pas considérée comme la branche principale. Donc, en réalité, on se trouverait sur la même rive. Alors, il y a des tentatives par des collègues archéologues pour chercher le temple vers le nord-est. Alors, il se trouve qu'on connaît plusieurs sites archéologiques pas plus ou moins bien exploré. Aucun n'est clairement un temple, mais comme on ne les a pas fouillés, on peut pas dire. Mais encore une fois, il semblerait quand même que la solution consistant à chercher au sud est la meilleure. Ça suppose de corriger le texte du Xing Tang Chu, corriger nord-est en sud-est, mais ça n'est pas le seul cas où les indications du Xing Tang Chu, qui n'a été mis par écrit qu'au début du XIe siècle, seraient corrompues.
Okay, so if our argument on the direction from Ishtihan works, and that would also mean that the range of Cao may be larger and even southward to the Zhuma in the Sui period. Yes. And that is a working hypothesis. So now we tentatively give Akdarya in place of Zahavshan. And today we shall finish our discussion of the final paragraph. And this is the basic bibliography today, and more Chinese reports and catalog and papers. In fact, yesterday is my guru Zhang Guangda's 90th birthday. So during his visit in the Kyoto University in 2002 and 2003, he gave a lecture on Persians and Sogdians in Chang'an, capital of the Tang Dynasty. A diagram of called Some Chinese Names of Early Iranian Drinking Vessels is provided as the figure 5 in his paper. And in his opinion, Po Luo is drinking horn. On the other hand, Professor Yu Xing, he agrees that Po Luo is a vessel, but in his opinion, Po Luo may have been named and classified by modern scholars as Ver, Bol, or Sukup, because they do not realize that those are exactly Po Luos in the eyes of Tang people, and his view is intriguing. Last week, I said that perhaps Po Luo ultimately came from Sanskrit patra, borrowed in Chinese, probably to designate various kinds of vessels and utensils, except the onbow of Buddhist monks. In fact, there are two special Chinese characters specifically reserved for Buddhist onbow, Bo, which were invented around the Han or Jin period. And Franz also mentioned that huge containers were installed in front of mosque for communal drinking of shorbat, a sweet drink, or soup kitchen. So to interpret Po Luo as a utensil or container is a plausible solution. Then we left three questions. And let's start to answer the first one. So, if we assume that the huge Po Luo in Cao looks exactly like a hemisphere, and then if the inner radius is about 2 meters, that would mean the volume will be over 16,000 liters. Or if the inner radius is, 1.5 meters, then the volume will be over 7,000 liters. So it is reasonable to assume that a Po Luo does not necessarily look like a hemisphere or a deep container. It might look like a shallow one, so its capacity is far smaller. And if we take the actual capacity of soup or shorbat into consideration, the volume could be even smaller.
Oui, alors de toute façon, quelle que soit la manière dont on calcule, c'est une énorme capacité. Hein. Mais ce n'est pas en même temps invraisemblable. Il faut partir déjà de l'idée que tel que ces grands banquets nous sont décrits dans la source chinoise, ça doit pas être du vin. Hein. Ça contient de la nourriture. Alors on peut penser que ça contenait tout simplement la viande bouillie. On peut penser que ça contenait la boisson qui, probablement non alcoolisée, qui accompagnait ces festins. Il y a un problème avec la fréquence de ces sacrifices, parce que dans le Sui Shu, c'est donc tous les jours qu'on sacrifie 1000 moutons, 4-5 chameaux, 20 chevaux, et ce serait donc tous les jours que 1000 personnes seraient en train de manger, c'est Bon, ce n'est pas totalement impossible, étant donné ce que nous pensons maintenant de la localisation du temple, c'est-à-dire dans cette zone au sud du Zerafshan, la zone de l'Abrar, qui justement est décrite chez le géographe arabe comme une grande zone d'élevage. Donc, et là, on comprendrait assez bien qu'il y ait eu des grands holocaustes de bétail. Ceci dit, bon, c'est quand même énorme. On a une des sources qui parle, non pas de chaque jour, mais chaque mois, le Tongtian. Oui. Le Tongtian, qui dit chaque mois. Alors, on pourrait penser à ce moment-là que les holocaustes, les sacrifices ont lieu chaque mois, et que le grand banquet où mangent 1000 personnes est à ce moment-là. Voilà, ça paraît la manière la plus raisonnable de lire la source.
Okay, so with regard to the next question, and Jinren, literally goat human, it is not necessarily made of pure goat. The same term is attested in a famous historical episode in 207 BCE, during the reign period of the second emperor of the Qin dynasty. As the Shiji described, 12 Jinren, literally golden men, or one may also say metallic men, were made in the capital by melting weapons collected from the whole empire. We know in that time, weapons were generally made of bronze and iron, so this Jinren was most probably colossals made of alloy. Another famous example is the Jinren among the Xiongnu people, the nomadic in the north of China. So I read just Watson's translation. In the spring of 121 BCE, the Han dispatched the general Huo Qubing and his troops, defeat the Xiongnu king, and seize the golden man which he used in worshipping heaven. Today, we don't treat the debate on the golden man of Xiongnu. From the 3rd century on, ancient Chinese scholars no more knew about its exact shape and purpose. Some scholars say that it would look like a human with a posture of holding a sacrifice ritual, and some others said it would be like a Buddha.
On peut penser donc une des hypothèses, c'est que quand on parle d'or, il ne s'agit pas vraiment d'or, ça pourrait être par exemple du bronze clair. Je pense que c'est l'hypothèse la plus vraisemblable pour le polo lui-même, le grand récipient, parce que effectivement, dans les mosquées aujourd'hui, ces grands récipients destinés à donner à boire à une grande masse de pèlerins sont en bronze. Voilà, donc ça pourrait être ça. Pour la statue elle-même, bon, on peut penser au bronze, mais il y aurait d'autres possibilités. On sait que plus tard, en Sogdiane, il y avait des statues de culte qui étaient en bois recouvertes de... sur lesquels on avait cloué des plaques d'or. Alors, on ne les a pas retrouvées, parce qu'évidemment, ça a été pillé et fondu, mais on a des descriptions. Hein. En 712, quand Samarcande est prise par les Arabes, le temple est pillé, on fait un grand tas des idoles, dont c'est le terme employé par par Tabari, qui raconte cet épisode, le conquérant Qutaïba y met le feu lui-même, et on nous dit que des clous que contenaient ces idoles est sorti une grande quantité d'or fondu. Alors quand on lit les clous, ça doit être les plaques clouées. Voilà. Donc ça pourrait bien être ça. Hein. Ce serait une façon de... Ce serait une façon assez cohérente de voir les choses. Mais il y a un deuxième problème. Il y a un deuxième problème, c'est que qu'est-ce que représente cette statue ? On est donc dans le temple de Tarsitch, on sait donc depuis peu qu'il s'agit d'une déesse, mais à quoi peut bien ressembler cette statue ? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'iconographie répertoriée de la déesse Tarsitch, sauf probablement une. Perhaps you can show the Pelgicent image. Did you insert it?
No.
Ah, ok. On l'avait vu la dernière fois, mais la fois d'avant. C'est cette peinture de Penji Kent qui montre donc une déesse, une jeune fille allongée dans un catafalque sur laquelle se lamentent deux grandes déesses, Nana et Déméter, que les Sogdiens appelaient, dont les Sogdiens ont déformé le nom en Gemat. Il se trouve, on l'avait dit aussi, que dans l'onomastique, dans les noms de personnes, les trois noms, Tarsitch, Gemat et Nana, marchent assez souvent ensemble. On les trouve dans les mêmes familles. Donc, voilà, on n'est peut-être pas obligé de penser que la statue représentait Tarsitch elle-même. Ça aurait pu très bien être une statue d'une déesse associée. Et on pense évidemment, Gemat, on n'en a pas non plus d'iconographie, à part sur cette peinture. Nana, en revanche, c'est la déesse la plus souvent représentée en Sogdiane. Donc, on pourrait supposer que la statue était en réalité une statue de Nana, et les informateurs chinois n'ont pas fait la différence. C'était Nana associée au culte de Tarsitch. Bon, de toute façon, tout ça est voué à rester hypothétique, à moins qu'on retrouve un jour le temple de Tarsitch. Je ne désespère pas, puisque maintenant qu'on sait à peu près où il se trouvait, je suis en train de recueillir des informations sur les sites de cette époque qui ont été répertoriés dans ces environs. Alors beaucoup de sites ont été détruits, mais enfin, il n'est pas impossible qu'un jour on finisse par trouver le temple de Tarsitch.
So as to the third question, Henning once interpreted a huge polo in Cao as banner, pala, and actually he refers to Khotanese form. And right. On the other hand, Schaeffer said polo is a mystery in his bestseller The Golden Peach of Samarkand. On the other hand, Yoshida in 1990, accept that polo is a banner, but south of the Sogdian form parak.
And qui signifie la même chose.
Yes.
C'est pas le même mot, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire bannière.
Yes. And Sorenstock also follows Henning in his edition of the Tang Hui Yao in 2009. But with regard to the illustration of polo in Yuxing's book, it shows the common sense among Chinese scholars that polo is definitely a vessel. Here we find color image for his view. So this one. This is a set of 10 shallow cups with ring foot from the underground hoard of the Famen Temple in Shanxi province of China. And it was Yang Zhishui who first proposed to identify them with polo. The other is among the six silverware from Kalashar, and Yuxing thinks it also is a polo. Previously, as you can see, the key sentence was translated arbitrarily upon scholars' interpretation and imagination. But I have my reason to translate Kuo, the character in green, white, large, broad, as diameter here, and I have my reason. In fact, in a commentary written before the Tang period on the Hou Han Shu, there is a passage. The barbarian people called Li in southwestern China cast bronze for making drums. The drums are the higher, the bigger, and the more prestigious, so that their drum head can be more than one zhang wide. No doubt the Kuo in this passage about drums expresses the concept of diameter. As for the following passage, Gao Xia Xiang Chen, there are at least two different translations. Grammatically, both are plausible. First, the higher, perhaps statue, and the lower, perhaps polo, are in proportion. Or second, the height of polo is in proportion of its diameter. The first one is actually close to Shavan's by conceiving the golden man and the golden polo as a set. Wakeman and Yu Taishan translated vaguely as the taller and shorter forming a well-proportioned group, while Huber, in the translation of Sui Shu, gives the golden statue on the top and the golden Po Luo Piala, perhaps, below are matching. By doing so, Huber conceived the Persian form Piala as a loanword from Greek, because on this point he mainly relied on Cai Hongsheng's book. And Franz and I shall present the loanword problem. Here I just want to indicate that Chavan's translation of Gao Xia as French hauteur, height, is possible, because there is a good example in the Sui Shu. It is about the design of a celestial globe in a palace garden in South China. It's not easy to find a good illustration for this design, so I used an old postcard of Sanssouci in Potsdam. In Sanssouci, there was a traditional Chinese celestial globe pillaged from Beijing. I roughly translate the passage in the Sui Shu as follows. The bronze apparatus, blah, blah, blah. Its basic design is a pair of perfect circles being concentric with each other. In green in my illustrations, the distance between them is about 10 centimeters. And there are two possibilities to understand this passage. Either the two circles are exactly of the same size as my illustration in the left, or one is slightly larger than another, as the one in the right. Then, the vertical axis denotes the pole of Ziwu. Between the pole Zi and pole Wu is the line between the polar rays and the octants. And in addition, there is a horizontal single circle in orange. Its height is exactly the half of the height of the whole celestial globe. So I mean that the horizontal circle here is the height is exactly the height, the half of the height of the whole globe, like the his. So on this problem, Wakeman took Kuo as part of the exotic terms. Sorry. And from his translation, we see his imagination of a set of statues called Po Luo Kuo, including taller and shorter ones. On the other hand, Yu Taishan, although his translation of the Sui Shu largely reproduced Wakeman's translation of the Tongdian, for this very paragraph, he carefully modified Wakeman's text, except for the ending clause. And it is noteworthy that his understanding of Po Luo is simply based on Cai Hongsheng's book as well. So, maybe your comment? C'est 26?
Oui. La traduction de Yu Taishan, en fait, est assez bonne, parce qu'elle n'est pas trop précise. Voilà. Donc, les... Il y a des images de la déesse en or. Ben, l'image, donc c'est ce qu'il traduit, c'est comme ça qu'il traduit l'homme d'or. Et il y a un Po Luo en or, voilà. Et un golden Po Luo et ils ont donc 15 chiffres de hauteur. Donc le plus grand et le plus petit formant un groupe proportionné. Hein. Donc bon voilà, on peut peut-être effectivement aller jusque là. Bon alors quand il en note, il indique que le Po Luo est un vase à vin. On va voir plus tard les contextes chinois. Dans un certain nombre de cas, ça l'est, mais ça l'est pas toujours forcément. Et dans le cas du Po Luo du temple de Tarsich. Ou qui contenait donc peut-être d'après les évaluations basses, enfin au moins plusieurs milliers de litres, ça devait pas être du vin. Voilà. Sa traduction est vraiment assez bonne. Simplement, bon, comme un certain nombre de ses prédécesseurs, il s'est trompé sur l'interprétation de Daisy, puisque il confond en fait Tarsich. Et le dieu de la pluie, Tishtar, Tishtria. Et nous avons vu la dernière fois qu'ils ne peuvent pas être confondus, ne serait-ce que parce que Tarsich est féminine et Tishtria est masculin.
Okay, so Yu Taishan's translation looks all right, although his understanding of the De Xi goddess is mistaken, and he repeats Wakeman's arrow to translate wise diameter as height. And there can be another alternative solution as kindly provided by Professor Yu Xing to us. Here I translate his personal email 2 weeks ago. Let the description 阔帐有五尺, 高下相称, most probably means that the upper opening diameter of the golden po luo is 15 chi, and the size of its lower bottom is proportional to it. In that time, when such a utensil was made, there must have been a normal shape. So that the diameter of its rim and the diameter of its bottom were proportional to each other. This is what the passage 高下相称 means. And
oui, voilà. Donc ça aussi, ça peut être, c'est intéressant. Donc on aurait en fait deux diamètres. Le diamètre de l'ouverture et le diamètre du pied.
Oui.
Le problème à ce moment-là, c'est que pour le pied, on a le caractère chinois qui veut dire hauteur.
Oui.
Ouais, ce qui pose quand même un problème, parce que si on a traduit le premier par diamètre, le deuxième ne peut pas être diamètre.
Non, le diamètre est le green passage, et le upper ou high est en turquoise, et le lower est en pink.
Ah, ok.
Right.
Ok, oui. Donc, bon, voilà, les diverses possibilités. En réalité, il n'y a pas de solution qui s'impose. Quand nous publierons tout cela, nous adopterons, nous donnerons plusieurs traductions alternatives à la suite l'une de l'autre. Il y a vraiment plusieurs. Le texte ne nous permet pas de décider ce qui relève de la statue, ce qui relève du vase. Les seules conséquences précises qu'on peut tirer, c'est que le vase, le récipient est énorme et qu'il y a une statue et qu'on nous parle d'or dans les deux cas. Voilà, et que vraisemblablement, dans aucun des deux cas, il ne s'agit d'or massif. Il faut trouver des solutions.
Oui. En fait, Chavan had paid attention to the enigmatic Po Luo when he translated a tribute payment from Kucha. From the king of Kucha to Tang Emperor in early spring of 675, the gift was a silver Po Luo. Although the first syllable is transliterated by a different Chinese character, it is of the same Middle Chinese pronunciation. Concerning this gift, Chavan expressed that je n'ai pas pu déterminer quelle sorte d'objet était le Po Luo. Nous trouverons plus loin dans une des notes de l'article consacré à la Sogdiane, c'est-à-dire Ishtihan.
Celui dont nous parlons, oui.
Oui. Un Po Luo d'or qui paraît être identique à l'objet énigmatique dont il est question ici. Et puis, Sylvain Lévy, when summarizing the history of Kucha and discussing the historical status of the Kuchian language, or the so-called Tocharian B language, did not translate Po Luo at all. But in fact, Paul Pelio had made use of a book of von Zach, an Austrian sinologist, and noted that the gift from the Kuchian king, Po Luo, was just another way to transcribe Po Luo, coupe à vin. The letter is well known in Chinese literature and registered in the dictionary Kangxi Zidian. So here I give a simple diagram of the three different kind of transliteration, and all the three are of the same Middle Chinese pronunciation, but in different contexts. So first is the Po Luo in our text on Ishtihan, and second, the Po Luo as a gift from Kucha to Tang Empire, to Tang Court. And third is the terms for wine drinking vessels in many Chinese poems and dictionary, etc.
On voit, en fait, le seul caractère qui est en commun dans les trois transcriptions, c'est Luo.
Right.
Voilà. Et Po est transcrit par trois caractères différents, mais qui se prononçaient pareil.
Yeah.
Donc, ça ne pose pas de problème s'il s'agit d'un terme originellement non chinois, mais retranscrit d'une autre langue, parce qu'on a transcrit phonétiquement.
Yes.
Alors, on a depuis longtemps, donc on a cherché quel mot étranger pouvait être derrière le mot que les Chinois ont transcrit ainsi.
C'est pas fini.
Hein? Ah ouais, ok.
So well, it's Shaban who first assumed that the first polo may be equated with the second one, but he was not so sure. While Peliot and Feng Zhao are talking that the second and third one must be equivalent. And if these two equations can be established, that would mean that polo in Ishtikan is a kind of wine drinking vessel. And this is what the common sense of Chinese scholars forms. So, it's on your term that...
Wine drinking, je dirais, bon, dans certains contextes, clairement, c'est cela. Mais c'est pas... On voit très bien que dans cette catégorie de sources chinoises, on n'y boit pas que du vin. Voilà. Donc, on a quand même une certaine latitude pour déterminer la manière dont était utilisé ce polo à Ishtikhan. Je dirais... Alors, donc, la conclusion de cela, c'est que l'instabilité des transcriptions chinoises de ce terme est un bon argument pour supposer qu'il s'agit d'un terme étranger. Bon. Donc, maintenant, quel terme étranger ? Alors, on a vu que, aussi bien les termes signifiant bannière, c'était qui était donc pas là préféré par Henning, le terme cotanais, ou bien parak, le terme sogdien préféré par Yoshida, ne peuvent pas fonctionner parce qu'on a vraiment des contextes très clairs qui indiquent qu'il s'agit d'un vase. Alors, de la même manière, ça éliminerait une autre piste à laquelle j'avais pensé, qui est le terme sogdien, poivé, qui phonétiquement irait assez bien. Et ce terme signifie un temple ou une chapelle, hein, en anglais shrine. Donc, disons, pour le contexte du temple de Tarsitch, ça pourrait convenir. Après, bon, voilà, la statue et le grand vase auraient été sous. Enfin, la statue, au moins, aurait été dans une espèce de petite chapelle, comme on peut les voir dans les monastères bouddhiques. Mais alors, entre-temps, donc, ce terme sogdien, poivé, a été retrouvé en chinois, mais dans d'autres contextes, pour avec une autre transcription, par donc Martin Schwartz, qui, en réalité, a montré que c'est le terme qui est derrière le mot « ba », utilisé, et Yoshida aussi est d'accord avec ça, le mot « ba » qu'on a déjà rencontré, utilisé à propos de Samarcande, en 751, par le voyageur qui venait, le prisonnier de la bataille de Talas, qui est donc...
Tu Huan.
Voilà, et donc, là, en l'occurrence, il s'agit bien d'un temple, mais on voit qu'en chinois, ça a donné « ba » et ça n'a pas donné « polo ». Donc... argument supplémentaire pour penser que polo n'est pas une chapelle. Donc, poursuite de la discussion.
So, I have to add one more note that, in fact, now we can safely establish the equation between the first and the second, because in a parallel text in Tang Hui Yao, its letter Lian Tong Dian, we find the same paragraph about Ishtikhan, but there the polo is transcribed as this one.
Ah, exactly.
And that means, well, at least in the eyes of Tang peoples, these two are of the same concept,
yes,
or same,
yeah,
term.
Yeah.
Right. So, in order to give you an impression of traditional Chinese drinking vessels, I choose the work of the pioneer Hamada Kosaku, father of archaeology in Japan and also president of Kyoto University around 1930s. So, traditional Chinese drinking vessels were divided by him into two categories, three-legged ones together with ring-foot ones for warm alcoholic drinks, and elliptical ones without foot for room temperature alcoholic drink. He noted that in medieval China, a new trend of cup types arose. Also, his classification is outdated to some extent. He wisely indicated that those cup types may be resulted from the influences of Western cultures.
So, si je peux ajouter un petit commentaire, oui. Il avait vraiment eu la bonne intuition, hein, puisque cette forme de coupe, en réalité, les prototypes céramiques de ces deux formes de coupe se trouvent à Samarcande, à l'époque 1er, 3e siècle, 4e siècle de notre ère, ce qui correspondrait bien à l'époque où ces formes sont introduites en Chine et copiées en métal. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le gobelet à pied douche. Tout visiteur d'un musée à Samarcande va en voir. Et c'était effectivement des vases à boire, c'était même des vases à toast, où on pouvait boire à deux. J'ai trouvé la confirmation archéologique parce que dans ma fouille, j'en ai trouvé un avec en bas deux noms de personnes sogdiens gravés. Donc ce sont deux personnes qui avaient bu ensemble dans le vase. Et ici, c'est un type également de coupe qu'on a aussi à cette époque à Samarcande. Voilà, c'est une idée qui m'est venue là, juste maintenant, et qu'on retrouve après dans un certain nombre, dans certains vases sogdiens que nous mettons dans la catégorie, qui jam et coupe à boire, qui semblerait peut-être avoir été traduite par Polo. Donc vraiment, il avait eu les bonnes intuitions.
So now we enter into the attestation of Poluo in Chinese literature. First is a famous poem by Li Bo, perhaps a native of Suyap. So I only read the first sentence translated by Jacob. So, dans un vase, Poluo, actually, dans un vase d'or, le vin de raisin. And this poem depicts a luxurious scene of grape wine, golden wine drinking vessels, costly feast, and a young female entertainer from southern China near Shanghai. And here is another poem, also in 8th century. And here is my rough translation. With the harmony of lute and flute, Chang boys and Hu girls sung in chorus. Roast whole of yak, stew of wild camel, excellent wine of Jiaohe, Turfan in gold poluos. And this poem depicts exotic music and foods at a luxurious feast.
Si je peux commenter, donc on a l'exotisme de deux côtés. Hein. Xiang, c'est Chine, donc région de Shanghai, je crois, hein, Chine du Sud. Et Hu, c'est l'Ouest. Ça désigne Sogdien en général à cette époque. Donc on a l'exotisme du sud et l'exotisme de l'ouest. Et du point de vue gastronomique, on voit très bien que les produits mentionnés sont des produits également exotiques. Hein. Le yak et le chameau. Alors Chao Zhong m'explique que ça se mange aussi en Chine, mais enfin ici clairement c'est associé au peuple turc, au peuple de l'Ouest, et le vin de Turfan. Donc ici, on a, disons, une surcharge de notation exotique.
Yes, and I would say that Chang is a people more closer to Tibet and to today's Qinghai.
So actually, Chang, c'est pas Changa. C'est l'Ouest alors. Yeah. Voilà.
So, and another attestation. It is from the biography of Zhu Ting, and he was a talented officer with sticking fingers. So the Shen Wu Emperor of Northern Qi Dynasty held a banquet for his bureaucrats. Then a gold polo was lost among their seat. Zhou Tai, a high-rank officer, made all the ones who drank wine or beer take off their hats and found it on Zhu Ting's hairband or coil. And these texts show that polo can be hidden in one's hat, and in Northern Qi period, man's hat was not big.
Ça peut être petit.
And again, another attestation in Tang period, it's a tale about the Tang court. So in the Kaiyuan period, the Emperor Xuanzong played a drinking game with his dignitaries. Its role was to do a funny thing when saying a term in calendar. And Gao Li Shi picked up a big piece of meat and placed it into Huang Fan Chuo's mouth, saying, "Today it is good for blocking a hole." And then Huang Fan Chuo immediately took a polo in front of the emperor, placed it into his own boot, then ran down away from the table, saying, "Today it is good for receiving wealth." And this would mean that the emperor's polo was not big, it could be placed in a boot.
On supposera quand même une botte qu'on avait enlevée. Hein. Mais voilà, donc ça, ce sont des indications qui montrent que polo peut désigner un vase petit. Mais ce n'est pas forcément un vase petit.
Mm-hmm. And this piece is a painting of a feast in the Tang period from a tomb of Wei family near Xi'an. And here I try to remark these things that could be drinking vessels in their hands.
Oui. Quant à ici, alors, Chao Zhong a supposé que c'était... What did you suppose for that?
I read the report and it is said to be the big container for soup.
Yes, it can be soup, it can be wine as well. That type of... big spoon with a long curved handle, we have it in Central Asia. On a ça en Asie centrale. Je ne sais pas si on a ça aussi en Chine. Ce que je remarque, c'est la forme de ce vase qui est donc lobé. Hein, et c'est typique de l'Ouest, ça. Donc, à mon avis, je pense que c'est peut-être pas la soupe, c'est peut-être le vin qui est puisé de ce vase pour être mis dans les coupes individuelles. Parce que sinon, que verrait-on ici? On verrait une outre. Il faut que ce vin ait un conteneur. Je pense qu'en l'occurrence, c'est ça. C'est, et là aussi, c'est une notation exotique.
D'accord. So now we go to a more detailed discussion of Cai Hongsheng's book. And I roughly translate his key passage. According to the research of a specialist in Sogdian studies, this word, polo, is from Iranian padrot, sik, which seemed to mean bowl. One cup-shaped silver bowl on which Sogdian padrot is inscribed may serve as corroboration. In the West, in the Greek language, it is transliterated as pale, actually piale, meaning bowl, cup. In the East, in the Turkic Uyghur language, it is transliterated as piala or fiala. So Chinese polo, in three variants, was exactly their phonetic transliteration. And his note 30 simply refers to Lifshitz's remark in the Russian version of the Golden Peach of Samarkand. As Franz immediately reminded me last year, both padrot and patrot are typos. Unfortunately, these typos are repeated in Chinese work for so many years. And the correct Sogdian form is padgat, as we shall discuss later.
Hubert, dire quand même can you show it again? C'est quand même assez étonnant que cet ouvrage qui est considéré en Chine comme un ouvrage de référence soit à ce point rempli d'erreurs de transcription. Parce que on a donc ça c'est mal transcrit, hein, Et pareil, de même, le grec phiale n'est même pas transcrit correctement, c'est phale. Donc, je dis, enfin, c'est une remarque personnelle, tout ça me paraît quand même très négligent.
So, Huber, he relies on Cai Hongsheng's book, translate Po Luo always as Piala with a question mark. But actually, Cai's argument is based on an imperfect understanding of Lipschitz. Etienne de la Vessie found a Russian translation of Schaeffer, and then Franz and I identify Lipschitz's remark. His remark well expresses a popular view in that time, that Sogdian and other Iranian words for cup is related with Greek word phiale. So, after abandoning the idea of phiale, Franz thought of linking patgal with polo, and he noted that the EMC form, pala, seems closer to Middle Persian paigal or Sogdian patgad, probably sounds like patgad or patgad, so perhaps it could fit early Middle Chinese pala, etc. But I would say, unless this word was introduced into China at a very early stage, so that the second syllable was somehow weakened or lost during centuries, the identification does not look so safe. Mm. And then Franz considered if there could be a Bactrian intermediary between Chinese polo and Greek phiale. So Franz.
Voilà. Voilà, c'était un des stades de ma réflexion. Comme on abandonnait l'idée d'un emprunt direct au Sogdien par le chinois, parce que ça supposerait une perte phonétique dans la transmission, je me suis dit, peut-être, malgré tout, ce mot iranien ancien qu'on reconstruit comme patigala aurait été transmis par autre chose que le sogdien, et par exemple le bactrien, qui n'a pas la même phonétique que le sogdien. Voilà, donc, next, le problème, c'est que... La comparaison entre phiale et paigal et polo se heurte à vraiment des difficultés. Si on suppose, comme on l'a supposé parfois, que le grec phiale est un emprunt à l'iranien, ça ne marche plus, parce que en fait on l'a en mycénien. Donc ça ne peut pas avoir été emprunté à l'iranien. Alors, abandon de la piste donc ça peut pas avoir été emprunté par par le grec à l'iranien, mais alors bon, est-ce qu'on pourrait supposer l'inverse, c'est-à-dire une transmission de, encore une fois, une transmission du grec à, par l'iranien, en supposant autre chose que le sogdien, les deux candidats possibles étant le bactrien ou le tocharien.
Yes.
Et ça n'a pas l'air de marcher non plus.
Oui. Well, I'm not a specialist of Bactrian, but I study tocharian, and I do not see any tocharian words immediately related to phiale. Theoretically, there can be other candidates for polo, I would say. For example, Sanskrit patra or pataka, any thin leaf or plate of metal or gold leaf, such as the famous copper scroll discussed by Gutenmesser, besides other meaning. And the second candidate is patra, bowl, etc., and with many other Indic forms. And both words were borrowed into Kuchian to carry on being. The first became Kuchian Patrak, metal plate, and the second became Kuchian Padro, arms bowl, begging bowl. But I don't think either of these Kuchian form could have been the immediate origin of Polo, because first, the Kuchian Patro, arm bowl, seems to be a very Buddhist term reserved for arm begging. And the second, Pino indicated that the Agnian or Tocharian A word for paper sheet is patrak. And I think he is right. So in other words, in the society around Kucha and Karashar, Sanskrit patra and patraka, this first word, would have denoted the material that can serve as writing media. So while the meaning of the second candidate, patra, for a look idea for our question, we may have to track the way of borrowing through other languages, for example, Gandhari, Sogdian, Bactrian, and or another. And then Okihara Hirotoshi remind me that a foreign tr can be transcribed by L in Middle Chinese. For example, Maitreya, or a non-Chinese form of it, was transcribed into Mile, Milek in Chinese, in Middle Chinese. And here comes the comment from Nicholas, right?
Voilà, Nicholas Sims-Williams, on a soumis à Nicholas Sims-Williams l'hypothèse bactrienne. Il nous répond, il n'y a pas de forme bactriade attestée, pouvant correspondre à Padrad ou à Fiale. Et Benveniste avait déjà montré que très vraisemblablement, ce sont des mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et que en fait, on retrouve Padrad attesté en sogdien. Le plus tôt, c'est par les anciennes lettres, début 4e siècle, serait l'origine donc du persan Piola, qu'on avait auparavant rattaché à Fialé. Non, en réalité, ça n'a pas la même. L'étymologie maintenant de Piola à partir de Padrad, Patigala, exclut que ça ait été emprunté aux Grecs. Donc, finalement, au bout du compte, il considère que l'hypothèse sur patra semble phonétiquement la plus plausible.
So this is how we derive the diagram that we already show last week. And in fact, this discussion involved more phonological and paleographical discussion, as we shall discuss in our joint paper. And here I just give my point among the many complicated discussion. So we know that there are many forms in different language in Central Asia about the long word patra as the vowels, or especially vowels in Buddhism. But I think I pay attention to Benveniste's note that the Sanskrit R or Khotanese L may be somehow transcribed Prakrit or Sanskrit T. And he just used the example of pala, banner, or banner. And then I also pay attention to Barrow in his grammar of Nia Prakrit. And he also mentioned a phenomenon that Khotanese L may stand for Prakrit D or Sanskrit T. Yes. So I think as long as we may assume that there is a change from T to T or retroflex D in Nia Gandhari or in another language around the Pamirs or the Tarim Basin, for example, Kucha Gandhari, we don't know, then it is possible to assume that Sanskrit patra could become pala in early Middle Chinese, as well as Sanskrit Maitreya, Bactrian Maitrak, became early Middle Chinese Milek on their way to China.
Alors, j'ai une question à propos de les intermédiaires possibles. Gandhari, hein. Alors, il y aurait un... On peut supposer aussi un intermédiaire khotanais. Sauf qu'on n'a pas, actuellement la forme en khotanais. We don't have it.
No.
But it might have existed.
The phonetic change is possible.
Yes, because culturally, it would be quite attractive. Because there were quite a number of... cultural terms were transmitted from Khotanese to Middle Chinese, but It's just a hypothesis at the moment. We don't have it in Cotanis, but it is a possible candidate.
Yes, I mean that for the meaning of arm spore or both in the hand of the Buddha, Hiyotoshi told me there are two attestations in Zambasta, Cotanis Zambasta, that it is it gives the form as patro or patro. But now we are taking about perhaps another way on the name of drinking vessel or cup or, yes. or a more generic term. So I just said that while the phonetic change is possible, but not necessarily not necessarily in Cotanese, nor necessarily in Chinese. We don't know. We have to find out. So now we go to the right. Tsai's problem that in fact Lipschitz mentioned more than one bowl with the inscription of Sogdian word Padgad. And since Williams remind us kindly that they were mentioned in Lipschitz and Lukonin for two examples. And he also provide us with the text.
Ici. Donc, voilà. Donc en fait, il y a deux les attestations épigraphiques sogdiennes de Patrade. Au stade où nous en sommes de la discussion, nous abandonnons l'idée que Patra soit l'origine de Polo. Nous pensons que Patra, sanskrit Patra, est un meilleur candidat, au moins originellement, à travers des transmissions encore pas complètement élucidées. Mais maintenant, il faut... évidemment, s'intéresser à la manière dont, à ce que pouvaient représenter physiquement les vases qui sont, des types de vases qui correspondent au nom sogdien Patrave, et puis ensuite on va voir les types de vases qui correspondent au sogdien Yame, qu'on trouve inscrit sur le vase de Karachar comme ayant appartenu au culte de Tarsitch. Alors, en ce qui concerne Patrade, on a donc deux attestations épigraphiques. Et évidemment, c'est très important pour nous, parce que comme c'est sur des vrais bols, on peut là dire exactement quel type de bol pouvait être couvert par cette signification, par ce terme. Voilà. Alors, je dirais, dans cette publication déjà ancienne de Lipschitz et Lukonin, les noms de propriétaires ont été corrigés depuis par Pavel Lourier dans son grand dictionnaire des noms propres sogdiens, mais il ne remet pas en cause la lecture Patras pour désigner le type de vase, de même qu'il ne remet pas en cause les indications de poids. Voilà, alors en voilà un qui est donc, 19, celui-là, il est à l'Ermitage, je crois.
Oui.
Diamètre, la photo alors est prise dans le vieil atlas de Smirnov, et voilà une photo prise par Bibo,
non, par moi,
par Jong, dans la vitrine de l'Ermitage. Les publications n'indiquent pas la dimension, mais enfin, il y a une échelle quand même dans Smirnov, donc j'ai pu calculer. C'est tout petit, hein, ça fait 600, c'est un petit vase, 6,5 cm de large. Et puis, alors, il y en a un deuxième.
It's more photo, a larger, large one.
Oui, il y a le deuxième qui fait lui, voilà, celui-là, qui fait 14,5 cm, qui est très connu. On voit que dans les deux cas, ce sont des coupes rondes, pas très grandes quand même, un maximum 14 cm, et qui n'ont pas de pied. Donc c'est typiquement la coupe où un individu boit du vin. Parce que si vous n'avez pas un support sur la table spécial, vous ne pouvez pas poser ça sur la table. Vous êtes obligé de finir votre coupe.
Okay. So, Ginyu,
alors, voilà. Donc, Ginyu, dans son article fondamental sur les noms, vraiment un excellent article, sur les noms anciens iraniens, moyen iraniens, des vases, des coupes, des ritons, etc., résume tout ça très bien. hein, Padra, traduit par une coupe à vin, et qui est bien connu en persan moderne sous les formes piolé, piolé, donc des mots très usités. Et là, Samra Azarnouch nous confirme que, en persan, effectivement, ça désigne une petite coupe à boire. Alors, voilà. Maintenant, l'autre terme attesté épigraphiquement, c'est le terme persan actuel jam, jamag en moyen perse, et en sogdien, bon, ça devait se prononcer jamé. Alors, c'est pas, on en a deux. Celui-là a été trouvé donc à Chiliek. C'est l'un des. Enfin, c'est ce site au nord-est, au nord de Samarcande, où certains ont pensé que peut-être se trouvait le temple de Tarsitch, mais nous ne croyons plus à cette idée. Diamètre 16 cm,2. Et là, donc, on a l'inscription qui indique le type de vase. Je vous fais remarquer à propos de la peinture de tout à l'heure, la forme, hein, en lobe, typiquement sogdienne, et qui pourrait bien être le vase qu'on voit sur ce banquet. Hein. Donc ça, c'est celui de Chiliek. Et alors, il y en a un autre. Donc l'autre, c'est le vase de Karachar, qui, là, est très intéressant pour nous, puisque il appartient donc à la gardienne du trône de Tarsitch, donc c'est du mobilier de temple, et cette femme se trouve être la fille d'une femme qui s'appelle Gemat, donc ça nous indiquerait, je pense qu'il s'agit d'une famille de prêtresses héréditaires, et ça nous donne un lien onomastique entre Gemat Déméter et Tarsitch, hein, c'est une partie de notre argumentation. Diamètre 16,2, exactement comme le vase de Chiliek. Alors, je rappelle que, du point de vue de la restauration, je pense qu'on a créé une monstruosité. Parce que j'ai jamais vu un vase comme ça. Je pense que, tout simplement, on a combiné... il ne devait pas avoir la partie inférieure de celui-là. Et je ne sais pas comment ça a pu se faire. Mais on a combiné deux vases en un. Mais il n'empêche que l'inscription est authentique. Et le diamètre d'ouverture, ce qui compte pour nous, est authentique aussi. Alors, évidemment, là, on ne peut pas être sûr qu'il y avait un pied. Mais bon, voilà. Celui-là étant le frère de celui-là, il devait y avoir un pied dans les deux.
Next.
Alors, voilà. Alors. Il faut savoir, donc, ce terme jamag, on le trouve sur des vases qui font à peu près 16 cm, mais contrairement à Padgard, qui est vraiment, semble, dans tous les cas connus, associé à des petites coupes rondes à boire, jamag semble un terme moins précisément défini, parce qu'on a des contextes où c'est petit et des contextes où c'est très grand. Donc, on a dans l'article de Ginu, on voit que c'est une petite coupe qui peut être utilisée dans le culte, mais dans l'anthologie de Zarzpram, texte Pélévi, on voit que c'est très grand, hein, un jamag en fer qui correspondrait vraiment là à ce type d'utilisation. Et je continue à penser que ce passage, c'est ce qui nous rapproche le plus de la description du banquet collectif au temple de Tarsitch, parce que c'est la même chose. Hein. Les pauvres, on peut penser que les 1000 personnes qui sont invitées à manger dans le temple au moment des sacrifices sont plutôt des pauvres. Bien, c'est pareil ici, c'est la fonction charitable des temples. Auteur d'un cheval, bon, il ne faut pas non plus penser que c'est... Alors aujourd'hui, on se dit, oh là là, ça doit faire un cheval, ça fait 1,80 m de haut au minimum. Bon, il faut savoir quand même qu'en contexte sassanide, un cheval, ça fait 1,50 m au garrot. Donc, on arrive à des proportions qui sont celles de ce vase en bronze de la mosquée de Herat. Alors, voilà, j'ai fait une récapitulation des indications qui semblent associées, qui sont associées à chacun des trois types de vases que nous étudions, c'est-à-dire moyen perse, Pélépagol, Sogdien, Padrav, Yamak, ça devait se prononcer Jamag, et ici ça devait se prononcer Jamé, et notre Polwo. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Pairaz, dans les deux cas connus, c'est petit. Jamag, taille variable. Polwo, on voit aussi, d'après les contextes chinois, taille variable, puisque ça peut se cacher dans un bonnet, mais que dans le cas de notre temple, c'est très grand. Bon, alors, maintenant, le Paigal est rond. Pour Jamag, on ne peut pas dire. Les cas connus de Paigal, il n'y a pas de pied, donc c'est vraiment la coupe qu'on tient à la main. Et là, par contre, dans les deux cas connus inscrits, il y a un pied. Donc, je dirais, Paigal, usage individuel. Là, à partir du moment où il y a un pied, ça peut être posé sur la table. Donc, un usage peut-être plus collectif. Voilà. Et pour Polo, certes, usage collectif aussi, d'après la description du temple de Tarsitch. Et dernier point qui unit Yamak et Polo, c'est que ici, on a l'indication épigraphique dans le mobilier du temple de Tarsitch à Karachar. Et ici, c'est associé au temple de Tarsitch, près de Samarcande. Donc, ma conclusion provisoire, c'est que, dans certains cas au moins, le terme chinois Polwo pouvait traduire ce qu'en Sogdien on aurait appelé Jamé Yamak. Pas toujours dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est ça qui paraît être la correspondance.
Okay.
Voilà.
So, one more additional note on why. Right. Okay. On why Chinese scholars of, for example, Yu Xin's book could identify Polo with those shallow dish, because he based on Yang Zhishui's paper. And in her paper, she paid attention to the inscription about the list of the treasure preserved in the hoard of the Famen Temple or Ashoka Temple near Shanxi, near Xi'an City. So in this inscription, there is a passage about the 10 pieces of little Polo, Polo Zi Yi Shi Mei, and she identified the 10 pieces exactly with these 10. And this is what Yu Xin selected as an example of Polo. And I think she has reason, because she even found there's no photo because of the copyright, but there is a ceramic bowl kept in the Boston Museum of Fine Art that she reproduced in her figures of paper, that in the bottom there is a Chinese inscription of this small ceramic or porcelain bowl, that it is Poluo Pen Yihe. So here we see the identification of the actual utensil together with the name Poluo. And I think it is a very strong reason that one can somehow identify this shape of bowl with Poluo. So we go to the next. That in the last report about Wilcock, Shi Jun Tong, in this scene, there are all kinds of shape of drinking vessels.
Oui.
So in fact, this is a very complicated problem.
Oui, mais en fait, bon, on reconnaît quand même. Ouais, je dis ça avec le pied assez large, moi j'appellerais ça Polwo, et en Sogdien, Jamé. Hein? Plus petit, ici, ça pourrait peut-être bien être Paigol, la coupe à boire, bien. Et dans certains cas, on a la corne à boire, le riton. Évidemment, c'est pas très vu l'échelle, c'est pas très très précis. Et en plus, je dois dire que sur ce tombeau de Wirkak, Shijun, la pierre n'est pas d'une bonne qualité. Et je l'ai vu plusieurs fois dans la réalité. Le dessin est très bien fait dans la publication, mais il est quand même un petit peu interprété. C'est pas toujours, ça peut correspondre à des choix de l'archéologue ou du dessinateur. C'est pas forcément exactement ce qu'on a sur la pierre. Alors, pour conclure, puisque donc Zhang Xingqiang avait publié un tableau complet des formes de vases chinois avec l'équivalent supposé des noms iraniens, il faut peut-être revenir sur l'ensemble de la question de la terminologie des vases iraniens. Alors là, pour ça, on a donc l'excellent point de départ, c'est l'article de Jinyu, et on voit en fait que on a cinq noms, pour lesquels à chaque fois on peut faire des hypothèses précises. On a la coupe allongée, la petite coupe ronde sans pied, le jamag qui paraît être un terme plutôt donc assez large, et le riton, donc la corne à boire, pour lequel on a en fait deux types et deux noms. Il y a le riton en forme d'animal et le riton qui est simplement une corne. Et il se trouve qu'on sait maintenant, grâce à des articles de Melikian Shirvani, qu'ils avaient un nom pour chacun des deux. Alors, je reprends donc dans l'ordre. La coupe allongée, alors on ne l'a pas vu dans notre discussion, parce que ce n'est pas un candidat possible pour le polo, mais donc cette forme de coupe allongée qui parfois a des lobes, parfois n'en a pas, c'est très fréquent dans l'argenterie sassanide. Ça se retrouve aussi en Sogdiane. Le nom Pélévi, on l'a, c'est Makog, qui veut dire ça, le bateau. Et on l'a sur un vase, publié au Japon. Alors, ça a été emprunté en arabe, en arménien. Et dans les deux cas, en arabe comme en arménien, l'un des sens donnés par les dictionnaires, c'est coupe à boire. Alors, en persan, le mot a perdu ce sens de coupe à boire. Il a continué sous la forme makoub et qui veut dire simplement un bateau. Et quand il s'agit de la coupe à boire, le nom a été traduit, en fait. On a trouvé un équivalent, kashti, qui veut dire un bateau en persan. Donc, le vase, le bateau à vin, ou simplement kashti, le bateau. Alors, la chose était attestée aussi en Sogdiane, puisqu'on a des exemplaires sogdiens et on en voit dans la peinture sogdienne. On n'a pas encore retrouvé d'inscription sogdienne sur ce type de vase, mais mon hypothèse, c'est qu'en sogdien, ils appelaient ça aussi bateau. Et le nom sogdien pour bateau, c'est Nawa. C'est Nawa. Donc, ça devait être ça. Alors, la petite coupe ronde, ça, on l'a vu, hein, pas grave. Donc, là, ce que j'ai indiqué ici reprend ce qu'on a déjà dit. Attesté par des inscriptions sur les deux petites coupes de l'Ermitage. Alors, l'emploi est confirmé dans les textes sogdiens chrétiens. Ça désigne le calice de la messe. Donc, c'est petit. Et puis, on a l'ancienne lettre 4, où le correspondant fait une plaisanterie. Si tu m'avais envoyé du vin, j'aurais même pas pu trouver une coupe là où je suis. Donc évidemment, s'il dit ça, c'est que il a en tête des petites coupes, hein, pour boire un verre d'eau. On peut même pas trouver une petite coupe pour boire un coup. Voilà. Donc ça confirme qu'ici il s'agit d'un petit vase. Correspondant Pélévi Paigal, qui a donné Piolé, c'est pareil, c'est petit. En Pélévi, pour le Pélévi, c'est pas attesté sur les vases, mais on l'a vu que ça l'est en sogdien. Donc et voilà, on abandonne tout lien maintenant avec le grec Fialé. Ça peut pas, grec Fialé ne peut pas avoir emprunté à l'iranien puisque ça se trouve en mycénien. Et puis dans l'autre sens, on a vu que ça ne marchait pas non plus. Alors numéro 3, c'est Jamag. Donc je reviens là-dessus, ce qu'on a déjà vu. Terme générique plutôt mal défini, pouvant désigner des vases ronds de tailles diverses, avec ou sans pied. Attestation épigraphique en sogdien, le vase de Karachar et un autre que nous avons vu. Dans la littérature Pélévi, ça peut être petit, ça peut être grand. On a vu ce texte donc, où ça désigne un grand récipient. Et donc, le fait que ce texte qui parle d'une utilisation pour des consommations collectives dans un temple, et également le fait que l'inscription de Karachar associe le vase au culte de Tarsitch, puisqu'on indique que ça appartient à la gardienne du temple, à la gardienne du trône. Donc, c'est la vaisselle sacerdotale. Me permet de penser que Paul Wu, qui en contexte chinois est lui-même associé à des vases de tailles très diverses, dans certains cas au moins, devait traduire le sogdien Yamak. Alors, nous continuons avec les ritons, que nous n'avons pas vus parce qu'ils sont, ils sont pas un candidat donc, pour ce qui est décrit dans le temple de Tarsitch. On n'a pas de vase iranien où le nom du pas de riton où le nom du vase soit inscrit dessus. Mais on a des descriptions littéraires. Alors là, on a d'excellents articles de Melikian Shirvani, et il a montré qu'il y avait deux termes différents, correspondant à deux formes différentes. On a takog, racine tak, versé. En Pélévi, le dictionnaire traduit drinking vessel, mais Melikian a bien montré qu'en persan, c'est le riton en forme d'animal. Parce qu'on a des poèmes qui nous parlent du takog qui a une forme de taureau. Bien. Et on a un deuxième terme, balog. Alors celui-là, on l'a seulement en persan, et ça désigne le riton corde, sans forme d'animal. Jinou pensait que c'était d'origine arabe, mais Melikian a proposé quelque chose qui me paraît plus convaincant. Les vieux dictionnaires transcrivent comme palog. Et on a un verbe pala et paludan, la racine c'est pâle, qui veut dire filtrer, décanter. Et c'est exactement à ça, c'est l'une des fonctions du riton. C'est une corne courbe, on verse un vin troublé, et le dépôt va se déposer au fond de la corne. Donc le buveur boira du vin pur, du vin décanté. Voilà. En tout cas, bon, vu la manière dont c'est utilisé, ça ne peut pas être à l'origine du chinois Paul Wu. Et de toute façon, oui, balog pourrait ressembler à Paul Wu, mais vu l'usage, ça ne peut pas être ça. Et donc, nous concluons avec le tableau publié par Zhang Wangda. Je dirais, voilà. Il aurait pu, mais il ne connaissait pas l'article de Melikian, il aurait pu dire que ça, c'était le takog, hein, la corde, le riton en forme d'animal. Il s'est trompé là-dessus, puisqu'il s'agit donc de la simple corne à boire, qui est donc le balog. Il a compris qu'il savait qu'en persan, c'était le balog. Ça, il a bien compris, il a bien fait le rapprochement. Mais là où il s'est trompé, c'est que il y a vu le même mot que pas égal, et on sait que c'est pas le même. Voilà. Pour ça, il s'est trompé. Pour donc pour ça, il n'avait pas le mot makog. Donc, son tableau est partiellement vrai, en ce sens qu'il a bien retrouvé, par l'article de Melikian, le nom persan de cet ustensile, mais il a fait une confusion avec un autre type de vase. Je crois que là, nous pouvons conclure.
Oui.
Voilà. Alors, donc nous avons fini notre série de 9 séances. On avait pensé initialement, en fait, couvrir l'ensemble des notices du Tangtian sur les royaumes de la Sogdiane, mais comme le séminaire sera poursuivi l'année prochaine, nous avons pensé qu'il était préférable de prendre les choses complètement à fond pour chacun des problèmes que pose le texte.
Okay, thank you very much.
So it could have come from Khotanis to Tocharian B.
We will keep discussion with you.
Okay, there is a discussion.
So, thank you very much. Merci beaucoup à tous.
Alors, nous avons l'intention de publier deux articles cet été en commun, l'un sur la question du temple de Tarsitch et l'autre sur la terminologie des vases. Ça va paraître dans des volumes qui devraient paraître rapidement et on donnera les références, on les indiquera au cours de l'année prochaine, et puis j'indiquerai ça aussi dans le résumé pour l'annuaire du collège, et puis tout ça, l'ensemble du séminaire de cette année et de l'année prochaine fera l'objet d'un livre que nous allons faire en commun, qui va donc s'intituler « La Sogdiade et les pays voisins d'après les notices du Tongtien ». Voilà, alors je vous dis à l'année prochaine.